Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour et bienvenue dans Priorité Santé. Dans le monde, 9 personnes sur 10 sont exposées à des niveaux de pollution atmosphérique responsables de 7 millions de décès chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Parmi ces victimes, plus de 3 millions de personnes auraient succombé aux conséquences de la pollution de l'air à l'intérieur de leurs habitations. En 2023, seuls 10 pays sur la planète avaient une qualité de l'air conforme aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé. Une pollution qui engendre des maladies respiratoires et cardiovasculaires, on va le voir au cours de notre émission. Alors veiller à la qualité de l'air que nous respirons est aujourd'hui un véritable impératif, un enjeu de santé publique, puisque notre santé dépend de notre environnement. Une qualité de l'air variable en fonction des régions du monde et de notre lieu de vie, au milieu du trafic automobile, à proximité d'un champ cultivé ou d'une usine, à l'intérieur de notre milieu de vie, produits ménagers toxiques ou combustibles de cuisson, autant de sources de pollution de l'air toxique pour notre santé. Alors si la prévention est essentielle, il est aussi important de reconnaître les signes d'inconfort, les symptômes qui doivent alerter et conduire à consulter pour une prise en charge le plus tôt possible. Santé et pollution de l'air, pour en parler aujourd'hui en studio avec nous, professeur Chantal Ray-Risson, bonjour. Vous êtes pneumologue dans le service des maladies respiratoires au CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et en duplex depuis les studios de France Bleu Provence, docteur Pierre Souvé, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes cardiologue retraité de l'hôpital Marignane à Marseille, président de l'association Santé Environnement France et auteur de l'ouvrage 200 alertes environnement santé aux éditions Guy Trédaniel. Nous retrouverons tout à l'heure en direct de la Côte d'Ivoire professeur Véronique Yoboué, enseignante-chercheure à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et spécialiste en pollution de l'air et ses impacts sur la santé. Et puis coup de projecteur sur une initiative citoyenne au Sénégal, on parlera du projet RGO qui mesure la qualité de l'air à Dakar avec Maroyo Gay, co-enquêteur. Et bien sûr, vous avez la parole, on attend vos questions, vos témoignages, notre numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Chantal Ray-Risson, on va d'abord aborder avec vous cette question des sources de pollution. Et je crois qu'il en existe deux grandes catégories.
Oui, tout à fait. Alors, dans les sources de pollution, il y a d'une part les particules fines. Et ces particules fines, il y a des émissions qui sont nombreuses. Alors, les produits, effectivement, ménagers, notamment, on a vraiment tendance à les sous-estimer. Et puis également, tout ce qui sert à faire la cuisine. La cuisine au gaz, beaucoup de foyers utilisent encore le gaz, quel que soit le pays. Et puis également, tout ce qui concerne la combustion de la biomasse. Le charbon, le bois, tout ce qu'on peut mettre pour faire du feu et cuire les aliments, qui va générer des particules fines.
Donc on peut distinguer vraiment une catégorie, je pourrais dire, atmosphérique et domestique.
Oui, tout à fait, avec un lien étroit entre les deux, on le sait maintenant.
Docteur Pierre Souvé, d'où viennent ces polluants atmosphériques?
Nous, les cardiologues, on s'intéresse particulièrement aux particules fines, qui viennent par exemple du trafic. Donc si vous êtes à Dakar, à côté d'une grande voie de circulation, il y aura une grande partie de ces particules qui vont pénétrer dans votre air intérieur. En Europe, où, par exemple, c'est presque 50% de la charge de maladie qui est due à ces particules qui viennent de l'extérieur. Donc, il ne faut pas négliger l'aspect extérieur dû, par exemple, au trafic, aux industries, et bien sûr, après, au comportement que vous allez avoir dans votre maison, si vous faites, comme a dit le professeur, la cuisine avec du bois, par exemple, sans système d'extraction ou d'aération suffisant. Et puis, il y a les gaz. Donc les oxydes d'azote, mais aussi des gaz cancérigènes produits par les combustions, comme le benzène. Donc des particules et des gaz qui peuvent altérer la santé essentiellement. Alors, il n'y a pas de bagarre avec les pneumos, mais en termes de mortalité, c'est surtout la mortalité cardio-neurovasculaire, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, c'est-à-dire les artères qui se bouchent,
Alors, on va évoquer, les pathologies associées à cette exposition, bien sûr, mais d'abord, peut-être un petit point pédagogique pour nos auditeurs, si vous voulez bien. Quand on parle de particules fines, pour bien comprendre, il s'agit de particules minuscules en suspension dans l'air, c'est ça, professeur Ryerson ?
Oui, tout à fait. On a des particules qui sont inférieures à 5 microns, hein, donc c'est vraiment très petit. Et puis maintenant, on parle même de particules ultra fines, qui vont, elles, passer la membrane alvéolo-capillaire et donc elles vont passer le poumon et puis ensuite aller dans la circulation générale vers le cœur et tous les autres organes. Ce qu'il faut bien comprendre en matière de pollution, c'est que ça commence très tôt. Et en fait, ce qui va être dommageable, c'est déjà pendant la grossesse, quand les mamans sont exposées, eh ben, il y a déjà un impact qui peut avoir sur le développement du futur bébé à naître. Donc en fait, cet impact de la pollution, il est vie entière. Il commence très tôt et il va être important pendant un moment qui est la croissance pulmonaire entre la naissance et l'adolescence où le poumon n'est pas encore mature et particulièrement vulnérable.
Donc ça veut dire qu'il y aura des conséquences sur les poumons dès la naissance du petit ?
Oui, tout à fait. On l'a montré dans différentes études. On l'a montré également en France avec une étude où on a vu que 38% des femmes enceintes respiraient un air de très mauvaise qualité.
Docteur Souvé, parmi ces facteurs de risque, et cette pollution d'ailleurs de l'air, on n'a pas encore évoqué le tabac.
Oui, alors je voulais juste rajouter sur la grossesse, donc outre les effets respiratoires, il y a des effets sur le développement cérébral. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps en France, où les mamans exposées pendant le deuxième trimestre de la grossesse et les enfants entre 3 et 4 ans avaient plus de difficultés cognitives de développement de la parole, par exemple. Donc vous voyez, ça peut même toucher aussi le cerveau des enfants, mais des adultes aussi, puisque là aussi, il y a à peu près les mêmes critères, plus d'exposition à la pollution de l'air, plus de difficultés de cognitives, quoi, on dit comme ça. Oui, le tabac. Ah ben oui, le tabac, si vous rajoutez une deuxième couche avec des centaines de produits toxiques, cancérigènes et beaucoup de particules, évidemment, vous augmentez votre risque. Donc il ne faut pas oublier, même si la première cause de mortalité dans le monde maintenant, devant le tabac, ce sont les pollutions, c'est qu'il faut tout faire pour pas fumer. Hein. Lors d'une soirée, une dame, quand j'ai expliqué ça, m'a dit « Ah, du coup, ça me donne envie de fumer ». J'ai dit « Non, bien sûr, c'est un combat essentiel ».
Alors, quelles sont les pathologies cardiaques associées à ces pollutions ? Vous avez commencé à nous en parler. Vous disiez que les premières maladies concernées par la pollution, ce sont bien les maladies cardiaques.
Oui, mais on les ressent moins. Évidemment, si vous avez une crise d'asthme ou le nez qui coule, évidemment, tout de suite, ça apparaît. Là, sur la mortalité, c'est les accidents vasculaires cérébraux, les artères du cerveau qui se bouchent et les artères du cœur qui se bouchent, les infarctus et les conséquences, insuffisance cardiaque notamment. Tous les nerfs peuvent être touchés. Donc, il peut y avoir de l'artérite, même le nerf optique qui peut donner, donc, par exemple, plus de risques de glaucome à long terme. Et donc voilà, même les artères des reins qui peuvent entraîner des... Enfin, toutes les artères sont touchées par cette inflammation générale due notamment aux particules et qui en plus sert de cheval de Troie. C'est-à-dire que sur ces particules, plein de produits toxiques peuvent se mettre et pénétrer, donc cancérigènes, et pénétrer dans votre organisme, et favoriser à ce moment-là certains cancers.
Alors chacun sa spécialité. Professeur Ryerson, côté santé respiratoire, quelles sont les conséquences pour nos poumons ?
Alors les conséquences, elles sont nombreuses. Tout d'abord, il y a un lien avec les infections respiratoires, ce que les patients appellent ces fameuses bronchites, hein, et déjà chez les enfants. Donc la pollution est responsable d'une mortalité infantile très élevée et responsable de toutes ces infections. Alors les bronchites, les pneumonies, il y a un lien étroit avec la pollution. Et puis ensuite, ces polluants peuvent entraîner l'apparition d'un asthme, même chez les personnes qui n'ont jamais été asthmatiques avant. Et d'ailleurs, il le dit, il n'a jamais fait d'allergie, personne n'est allergique dans la famille. Et puis brutalement, je me mets à tousser, je suis gênée pour respirer, je ne suis pas très bien. Donc ça peut générer l'apparition d'un asthme. Et puis ensuite, sur le long terme, ça peut entraîner un vieillissement accéléré du poumon, une maladie que l'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est souvent rattachée au tabac.
Hein, c'est la
maladie du fumeur. Alors, c'était vrai, ça reste vrai dans les pays où il y a un tabagisme important, mais on sait aussi que cette maladie, elle peut être en lien avec une exposition à la pollution, même quand on n'a jamais fumé.
Et le cancer du poumon, j'imagine.
Et le cancer du poumon, on commence à avoir également des données sur l'apparition de cancer du poumon chez des personnes qui n'ont jamais fumé et qui sont exposées à des niveaux de pollution importants.
Alors, docteur Souvé, quels sont les symptômes qui doivent alerter ? Est-ce qu'on peut faire aussi une différence entre une atteinte du cœur et des poumons ?
Il n'y a pas si longtemps, donc une dame est venue, très essoufflée, elle me dit c'est le cœur, et en fait, elle travaillait comme aide aux personnes âgées, et les personnes âgées qu'elle allait voir étaient très très mal, et dès que c'est arrivé, elle mettait des sprays déodorants à gogo sur les 5 malades qu'elle avait dans la journée, et donc en fait, j'ai fait son bilan du cœur, mais ce n'était pas le cœur, c'était en effet un problème de pollution d'air intérieur et d'asthme. Donc parfois, sur l'essoufflement, c'est difficile. Mais si vous avez, par exemple, une barre dans la poitrine qui vous serre dans la poitrine, qui éventuellement monte au niveau du cou, voire au niveau des bras, là, c'est une urgence médicale, hein, c'est un signe d'infarctus.
Il faut aller consulter tout de suite.
Ah oui, il faut appeler les urgences. Si c'est quelque chose que vous avez en faisant un effort et qui passe, ben là, si c'est, ça veut dire donc une barre dans la poitrine à l'effort et qui passe, ben c'est, ça veut dire que c'est sûrement les artères du cœur. Il faut consulter très rapidement. Et puis vous avez d'autres éléments comme le cœur qui s'emballe. Vous avez l'impression que pop, le cœur déraille complètement. Ou évidemment des syncopes, vous tombez dans les pommes sans raison. Et là aussi, c'est des éléments cardiaques d'alerte.
Donc les irritations, le nez qui gratte et qui coule aussi, peut-être, professeur Harrison.
Oui, il y a un lien étroit entre la sphère au niveau du nez et puis les bronches. Donc très souvent, ça commence par le nez et puis les patients vont se dire « je fais une rhinite, je dois faire une allergie à quelque chose ». Et puis, je voudrais revenir aussi sur les symptômes respiratoires pour les signes d'alerte, parce que très souvent, quand même, c'est sous-estimé par les patients. Et en fait, l'essoufflement n'est pas si évident que ça à connaître. Et les patients sont souvent fatigués, en fait, où ils n'arrivent plus à faire les activités qu'ils faisaient habituellement. Et du coup, ils tardent à consulter. En fait, nous, c'est ce qu'on voit beaucoup en clinique. Et quand on fait le diagnostic, les patients nous disent « moi, je me sentais fatiguée, mais je mettais ça sur le compte du travail, du stress ». Donc, on fait rarement le lien entre la fatigue et le manque de souffle et l'essoufflement.
Donc, un point essentiel, la sensibilisation de la population. On va continuer d'évoquer les conséquences de la pollution de l'air, les affections associées aussi avec vous et les auditeurs de Priorité Santé. Tout de suite, un premier témoignage. En direct, on part pour le Niger.
RFI à Maradi, 96.2 FM.
Et on accueille Issa, 37 ans, qui nous appelle de Maradi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute, Issa.
Comme j'ai posé le problème, je tenais dans une zone où il y a une exploitation minière.
Vous habitiez à Arlit, au Niger, c'est ça ?
Oui, j'habitais à Arlit, où il y a l'exploitation minière exploitée par Orano depuis plus de 40 ans.
L'uranium.
Oui, l'uranium, oui. Bon, là, la remarque que j'ai faite depuis, c'est-à-dire ma génération et la génération qui m'ont avancé, ont développé des sinusites, des rhinites, et voire même l'asthme. Donc là, je voudrais savoir, est-ce que toutes ces maladies-là, ou bien toutes ces crises d'asthme, de sinusite et de rhinite, sont liées à cette activité minière-là?
Moi, j'ai une question pour vous, Issa. Est-ce que vous constatiez que l'air était pollué à Arlit à l'époque où vous y habitiez? Est-ce que vous voyez de la fumée? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous dérangeaient? Le nez qui gratte, le cœur peut-être plus essoufflé aussi. Est-ce que vous aviez ces symptômes aussi également?
Oui, on a très bien ces symptômes parce que quand ils font l'air tire avec des dynamites, il y a une grande fumée qui s'abat dans le ciel, quoi.
En fait, les roches sont cassées avec des explosifs et tout d'un coup, ça dégage effectivement de fortes fumées. Professeur Harrison, je me tourne vers vous, peut-être pour répondre à cette première question d'Issa, le lien entre les pathologies respiratoires et un terrain où il y a une exploitation minière entre poussière, fumée, stockage des déchets miniers aussi à ciel ouvert, on n'en a pas encore parlé.
Oui, effectivement, on sait dans ces exploitations minières, les explosions, ça génère un empoussiérage massif en fait. C'est malheureusement un empoussiérage, je dirais, expérimental. Et on sait que ça va générer effectivement des maladies respiratoires, alors avec des crises aiguës, mais aussi sur le long terme, avec une gêne respiratoire, une diminution du souffle. Donc on sait qu'il y a un lien entre l'atteinte du nez avec les sinusites à répétition et l'apparition d'un asthme. d'asthme, même quand on n'a pas de terrain génétique.
Issa, vous nous avez indiqué au standard que vous aviez déménagé. Vous êtes maintenant à Maradi. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que cette sinusite, ces rhinites sont toujours aussi présentes?
En tout cas, moi, ma sinusite, depuis que j'ai quitté Arlit, vraiment, les crises me reviennent de moins en moins, quoi.
Est-ce que vous aviez eu un traitement? Est-ce que vous avez consulté à l'époque?
Oui, à l'époque, j'avais consulté. Le médecin m'a prescrit un médicament pour calmer les crises. Mais j'étais fatigué de prendre ça. Ça fait plus de 7 ans, 8 ans. Là, vraiment, j'ai fait recours aux tisanes traditionnelles pour calmer ma crise.
Donc finalement, votre question aujourd'hui, c'est vraiment de savoir comment vous protéger, professeur Harrison. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Issa?
Alors, c'est une bonne nouvelle, effectivement, qu'il aille mieux hein, en ayant déménagé. Toutefois, il faut savoir que parfois, les évolutions ne sont pas toujours favorables dans ce sens. C'est-à-dire qu'une fois que la maladie est là, même quand on est en dehors de l'exposition, elle peut continuer à évoluer pour son propre compte. Donc, il faut quand même rester attentif et ne pas hésiter à reconsulter s'il y avait à nouveau des gènes respiratoires.
Merci pour votre appel, Issa, et pour continuer notre émission. On va retrouver d'autres témoignages et éclairages juste après un peu de rock et de blues avec le titre Pollution du célèbre guitariste, chanteur et compositeur américain Bo Diddley sur RFI. Vous Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, émission consacrée aujourd'hui à la pollution de l'air et les conséquences sur notre santé. On est en votre compagnie, professeur Chantal Ryerson, pneumologue au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et docteur Pierre Souvé, cardiologue retraité de l'hôpital Marignane à Marseille et président de l'association Santé Environnement France. Une question, professeur Ryerson, est-ce qu'on peut dire qu'en fonction des régions du monde et des pratiques individuelles, il y a une échelle de facteurs de risque évidemment différente?
Tout à fait. Je pense que jusqu'à il y a quelques années, on avait beaucoup polarisé en se disant que la pollution, c'était... On connaissait aussi comment se dégageait la pollution, je dirais, dans les pays développés avec les recherches. Et puis, on avait complètement zappé ce qui se passait dans les pays, j'aime pas tellement ce terme, les pays du Sud, on va dire. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que l'enjeu, il était tout aussi prioritaire et majeur parce qu'on avait d'autres sources de pollution, d'autres pratiques aussi, et qu'il fallait pouvoir les identifier si on voulait changer les choses et modifier les comportements, ce qui n'est pas toujours évident.
Un facteur de risque de plus en plus présent sur toute la planète, ce sont les pesticides, on n'en a pas encore parlé.
Mmh. Oui, tout à fait. Les pesticides, que moi j'ai travaillé à Bordeaux pendant des années, donc on a effectivement regardé l'impact des pesticides. Alors, les agriculteurs sont les premiers touchés sur le plan professionnel. Et puis maintenant, il y a aussi le problème des riverains, des personnes qui habitent à proximité de champs traités et qui vont aussi être exposées. Ça va générer aussi des problèmes de santé.
Des écoles aussi.
Des écoles. Donc, nous, on avait conduit une étude dans le milieu viticole, en plein milieu des vignes, où on avait montré que les enfants étaient exposés et ça générait des problèmes de sinusite, de rhinite et d'asthme. Et donc, ces pesticides, pourtant, on sait les mesurer comme on mesure les polluants. Mais pour l'instant, ces mesures de pesticides ne sont pas faites en routine, malheureusement. Et ça concerne beaucoup de pays au niveau du globe.
Docteur Pierre Souvé, un autre facteur dont on parle aussi de plus en plus aujourd'hui, c'est le changement climatique qui déclenche des saisons différentes.
Oui, alors essentiellement donc sur, j'allais dire, les allergies potentialisées par la pollution en particules, où la durée de pollinisation va être plus longue, et plus vous avez de CO2 dans l'atmosphère, plus il y aura de pollen qui va être émis. Donc sur cet aspect. Dans les pays exposés à l'ozone aussi, plus il va faire chaud, plus il va y avoir toujours des rejets d'oxyde d'azote dus à tous les phénomènes de combustion, trafic, etc. Là aussi, il va y avoir plus d'ozone, qui est un gaz irritant, donc ma collègue pourra mieux vous en parler, respiratoire. Ces deux éléments. Si on ne diminue pas, en effet, nos émissions d'oxyde d'azote, donc ce gaz, et de particules, eh bien, avec le changement climatique, la pollution de l'air va encore augmenter.
Vous restez avec nous tout de suite. Je vous propose de donner la parole à une de vos consoeurs. On prend la direction de la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On retrouve professeur Véronique Yoboué. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheure à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et spécialiste en pollution de l'air et ses impacts sur la santé. Professeur Yoboué, est-ce que la qualité de l'air est contrôlée ou suivie dans les villes de Côte d'Ivoire aujourd'hui?
Merci. En ce qui concerne la qualité de l'air en Côte d'Ivoire, je dirais qu'elle est plus suivie par les scientifiques. Et donc, mon équipe de recherche, travaillant depuis plus de 20 ans sur la qualité de l'air, que ce soit les polluants gazeux ou particulaires. Et les résultats montrent depuis plusieurs projets de recherche, que ce soit des projets européens, français, franco-ivoiriens. On a pu montrer que la pollution en Côte d'Ivoire est réelle. Et on a mis vraiment l'accent sur la pollution particulière, et plus les PM2.5, les particules de taille inférieure à 2.5, qui sont des particules même qui impactent la santé. Et nous avons montré qu'en termes de pollution, que ce soit la pollution gazeuse comparée à la pollution particulière, le problème est vraiment sur la pollution particulière. Et on a remarqué que cette pollution particulière est à 50% émise par, émise par la source de combustion de fuel ou de biomasse, donc combustion de bois, de charbon.
Pour la cuisson ou le chauffage, c'est ça?
Exactement, pour l'énergie domestique, comme j'appelle, et même d'énergie commerciale aussi.
Oui.
Parce que quand vous fumez du poisson ou que vous faites des maquis, Voilà, c'est cette énergie-là que vous utilisez.
Alors, professeur Yoboué, on a déjà donné quelques éléments de réponse, mais je vous pose quand même la question. Quelle partie de la population est la plus exposée à la pollution et quelles pathologies sont développées?
D'accord. Alors, d'après nos études, hein, nous, on a beaucoup travaillé, en fait, sur la population précaire, si on peut dire comme ça. Et tout simplement parce que c'est cette population-là qui utilise à 80% la combustion de bois et de charbon pour l'énergie domestique. Et on a remarqué que cette population est très vulnérable justement à cette pollution due à leurs activités culinaires et aux technologies utilisées pour produire cette énergie de cuisson, donc on appelle énergie domestique. Et je rappelle juste que des études d'émissions de façon générale, ont montré qu'en fonction des différentes sources, des secteurs et émetteurs de polluants, on a quand même la source résidentielle qui a plus de 50% contributrice des émissions de PM2.5 en Côte d'Ivoire.
Donc, alors, oui, allez-y.
La population est vraiment, surtout pour la pollution intérieure, puisque en général, ces énergies-là sont utilisées à l'intérieur pour la cuisine. Et effectivement, on a relevé, enfin, il est bon de relever qu'il y a des effets sur la santé. Cette pollution a des effets sur la santé. Et on peut relever des problèmes respiratoires, tels que l'asthme, la bronchite chronique, les infections pulmonaires, les maladies même cardiovasculaires, bon, des allergies, comme a parlé ma collègue, des irritations des yeux, le nez, la gorge.
Donc les femmes qui sont particulièrement concernées, c'est ça? Les enfants aussi, qui sont souvent avec les mamans pendant qu'elles cuisinent?
Tout à fait, tout à fait. Les femmes, les enfants et les vieilles personnes aussi, qui passent beaucoup plus de temps à la maison.
Et les enfants,
parce qu'elles suivent leur maman. Voilà, qu'elles partent sur le lieu de travail, de fumage de poisson, voilà, ou à la cuisine, les enfants sont toujours avec elles. Et on sait que ces enfants ont un poumon qui est encore pas mature du tout. Donc... les enfants sont vraiment exposés aux maladies respiratoires.
Et alors, est-ce que dans ces cas-là, le diagnostic est posé facilement et rapidement, surtout?
Malheureusement, non. Tout simplement parce que, en fait, cette population-là n'est pas assez sensibilisée déjà par les risques de cette pollution due à l'énergie domestique. Et même si elle était sensibilisée, c'est une population qui n'a pas, je vous dis, c'est un peu précaire, une situation précaire. Donc cette population n'a pas le recours aux soins facilement comme la population plus aisée. Donc les moyens font qu'ils ne vont pas directement à l'hôpital. Ils font de l'automéditation ou ont recours aux praticiens. Voilà, où je pose la question au voisin, ah, moi je tousse, qu'est-ce que tu as comme racine, tu peux me passer. Voilà. Ils ne vont pas plus loin. Ça fait que ces maladies ne sont pas détectées très tôt. Et s'aggravent au fur et à mesure. Et souvent, quand elles ont un recours aux soins, elles vont à l'hôpital, c'est déjà très, très avancé.
Alors, est-ce que selon vous, du fait de la pollution de l'air, est-ce que des pays comme la Côte d'Ivoire, qui étaient surtout impactés par des maladies infectieuses, vont faire face à la multiplication des maladies comme le cancer qu'on trouvait plus tôt dans les pays industrialisés?
Oui, bien sûr. Comme je dis, bon, je prends l'exemple d'un projet qu'on a en ce moment qui travaille vraiment sur les femmes qui fument le poisson. Qui est une activité économique connue, mais qui appartient à vraiment à un niveau de... une classe, je dirais, sociale un peu basse. Voilà. Ces femmes-là respirent presque sur 24 heures, je dirais, sont 16 heures. 16 heures, juste le temps d'aller dormir. Tout le temps, elles sont dans cette fumée-là de bois pour fumer le poisson. Et les études ont montré, on a fait des études sur des cohortes, on les a suivies, ont montré que ces femmes-là ont souvent des problèmes au niveau du poumon, qui deviennent même des cancers. Elles ont des problèmes de peau. Elles n'ont plus d'empreintes, par exemple. Elles ont des problèmes d'yeux parce qu'elles se protègent pas les yeux. Elles sont en permanence et développent ces maladies. Et quand c'est trop tard, mais on leur dit quand même, on leur dit, bon, vous ne pouvez plus pratiquer cette activité parce que, bon, sinon vous allez mourir. Et tout. Mais bon, malheureusement, c'est su trop tard. Voilà, c'est ce que je dis. Il faut faire quelque chose pour les accompagner dès le départ.
Alors justement, est-ce que l'État ivoirien propose des solutions pour réduire cette pollution liée aux feux domestiques notamment et pour sensibiliser la population?
Bon, l'État ivoirien, je pense que la première chose à faire, la difficulté que nous avons, je ne dirais pas que l'État ivoirien n'est pas au courant, si, mais l'État ivoirien n'est pas sensibilisé à ça. Et je pense que c'est un problème de dissémination des résultats scientifiques. ces résultats ne passent pas assez bien et la sensibilisation n'est pas faite. Parce que la sensibilisation n'est pas seulement au niveau de la population, mais c'est au niveau des décideurs. Et pourquoi ? Parce que s'il y a une solution d'amélioration ou d'atténuation de cette pollution, ça va passer forcément par des technologies nouvelles, des technologies améliorées et va nécessiter des moyens que les femmes n'ont pas. Donc, une fois que nous, on a montré que si on passe par des technologies nouvelles, on pollue moins et l'état de santé de la, des femmes s'améliore, ça, c'est OK. C'était un argument pour faire un plaidoyer auprès des politiques. Mais après, qui va subventionner ces outils améliorés qu'on peut développer, bien sûr? Il faut forcément que l'État subventionne, que l'État aussi fasse attention aux habitations, que ces habitations soient plus ventilées. Il y a des habitations qui n'ont même pas de fenêtre ou une fenêtre pour toute la famille. Alors, vous imaginez, cette pollution qui rentre dans la maison, elle reste là, elle stagne, on dort avec, on se réveille avec. Voilà, donc l'État doit être, voilà, à une contribution très importante, et les stakeholders. Et souvent, voilà, dans nos projets, à la fin, on a cette dissémination qui est prévue. Et on fait des groupes pilotes avec les stakeholders. Ils nous accompagnent. Ils ont à chaque étape de notre projet, on leur explique ce qu'on a fait.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, professeur Véronique Yoboué. On entend cet appel à l'implication des pouvoirs publics. On vous souhaite une belle journée à Abidjan. Et tout de suite, on retrouve les auditeurs de Priorité Santé et on est en ligne avec Jérémy de la République démocratique du Congo. Bonjour.
Bonjour, madame Raphaël. Et bonjour à l'auditeur.
Alors Jérémy, vous nous appelez de Kisangani, on va essayer de tendre l'oreille, mais si la liaison téléphonique n'est pas bonne, soit on vous rappelle, soit je vais lire votre question. Allez-y, on vous écoute.
Ouais, j'aurais une question, je voulais justement connaître...
Alors je suis désolée, la liaison téléphonique est vraiment trop mauvaise Jérémy, mais j'ai votre témoignage sous les yeux, donc je vais me faire, si vous êtes d'accord, votre porte-voix. Jérémy nous dit qu'à Kisangani, les routes sont infestées de poussière et d'argile qui se propagent partout parce qu'elles ne sont pas balayées. Et il nous dit aussi que la ville sort actuellement d'une épidémie de conjonctivite. Et il rajoute « Je prends des mesures pour me protéger, je me lave souvent les mains et je porte des lunettes de protection lorsque je sais que je vais passer à côté des routes ». Professeur, docteur Pierre Souvé, je pense que vous êtes toujours en ligne avec nous. Est-ce que la pollution de l'air peut provoquer des problèmes de vue? Et une autre question dans la foulée, est-ce qu'il existe, c'est la question de Jérémy, des produits pour désinfecter l'air intérieur?
Alors, pour Jérémy, déjà, je lui dirais que le soir, il faut aussi qu'il se lave les cheveux, les sourcils, la figure. Parce que quand il va dormir sur son coussin, il va ramener beaucoup de poussière. Donc, il faut se débarbouiller très, très largement et aussi, pourquoi pas, changer ses vêtements, les secouer à l'extérieur pour que la poussière des vêtements ne rentre pas. Sur l'œil, je vous l'ai dit, évidemment, un facteur irritatif. Hein, là, les poussières, c'est irritatif. Et puis, sur le long terme, donc... des atteintes du nerf optique, ça touche aussi les nerfs, ça touche les vaisseaux, les poumons, les nerfs. Et donc le glaucome, vous savez, c'est une maladie, il y a trop de tension dans l'œil et on peut devenir aveugle et il y a plusieurs millions de personnes dans le monde qui peuvent avoir ça. Pour désinfecter, alors c'est compliqué. Notre collègue nous disait qu'il fallait investir dans la maison. Donc oui, l'idéal, c'est de mettre des extracteurs au moins. Mais évidemment, vu les conditions socio-économiques, souvent, c'est très, très compliqué. Et donc, il y a des épurateurs, mais pour surtout les particules qui vont rentrer, l'air extérieur. Donc, on se retrouve en intérieur avec le problème de la ventilation, de l'aération. Il faut... arriver, c'est la priorité, à trouver un système d'extraction, si vous faites la cuisine au bois ou au charbon, pour que la fumée ne se répande pas dans la maison, mais sorte par une pseudo-cheminée avec une pseudo-hotte. En tout cas, à mon avis, c'est la priorité pour limiter le taux particulaire. Voilà.
Et ne surtout
si
pas utiliser
de... plus riches...
Oui, allez-y, pardon.
Oui, oui, et si c'est bien sûr la pollution qui vient de l'extérieur, dans une rue, un trafic, par exemple, en ville, dans les capitales, à ce moment-là, il y a des filtres à haute efficacité pour les petites particules qui peuvent, donc l'air qui rentre dans votre maison est filtré, mais c'est de l'air qui vient de l'extérieur.
Et ce n'est pas toujours accessible partout, mais, et je disais donc ne surtout pas utiliser les sprays industriels en tout genre qu'on trouve pour purifier son logement.
Oui, tout à fait. Alors évidemment, j'ai entendu qu'il y avait des maisons qui n'avaient qu'une seule fenêtre. C'est parfois très compliqué. Mais en effet, ne pas rajouter à l'intérieur des substances qui vont vous irriter et provoquer des problèmes respiratoires en premier.
Professeur Ryerson, finalement, quel est pour vous le meilleur moyen de dépolluer l'air chez soi ? On a entendu aérer, mais par exemple, quand l'air extérieur est pollué, est-ce qu'il est bon malgré tout d'aérer son logement ? Le curseur n'est pas toujours simple à positionner.
Alors, effectivement, la question que vous posez, elle est difficile, mais il faut quand même continuer à aérer son logement. Ensuite, dans l'idéal, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une prise de conscience quand même des pouvoirs publics de façon générale, les citoyens seront beaucoup plus aidés s'il y a des mesures de pollution actives avec des systèmes d'alerte, parce qu'il y a effectivement la pollution de fond au long cours, et puis il peut y avoir également des pics de pollution. Et on sait que quand il y a des pics de pollution, ça permet de faire des alertes, et ça permet de modifier les comportements. Et ça, et finalement, il n'y a pas de fatalité. On sait qu'aujourd'hui, on peut quand même mesurer la pollution, même si on n'a pas des stations fixes partout. Il y a des modélisations. On nous parle d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. Peut-être qu'à un moment donné, ces moyens technologiques pourront être mis à disposition pour pouvoir aider les citoyens et que les gens aient des capteurs ou même il y a des applications qui ont été développées pour évaluer la pollution à proximité de son domicile et savoir quoi faire. Effectivement, s'il y a un pic de pollution, c'est pas conseillé d'ouvrir les fenêtres, mais en dehors de ça, il vaut mieux continuer à aérer.
Docteur Pierre Souvet, on parle donc de pic de pollution. Est-ce qu'une exposition de courte durée aux polluants est déjà nocive ou est-ce que l'impact est à long terme ? C'est une question qui est beaucoup revenue sur Facebook de nos auditeurs.
Oui, c'est l'exposition chronique qui est la plus évidemment délétère, mais il peut y avoir, par exemple, plus de risques d'infarctus du myocarde, donc l'artère du cœur qui se bouche, en cas d'exposition, notamment si vous faites du sport. Donc, un slogan, c'était ne pas faire de jogging sur l'autoroute. vous allez avoir un surrisque, notamment donc, d'infarctus et d'AVC aussi dans les quelques jours qui suivent. Donc, il peut y avoir des impacts à très court terme, certes moins nombreux que ceux à long terme.
Alors, on accueille au micro de Priorité Santé Dado, une auditrice de 30 ans qui nous appelle, elle aussi, de Dakar. Bonjour, on vous écoute.
Bonjour, comment vous allez ?
Bien, et vous ? Vous nous appelez pourquoi ? Nous vous écoutons, Dado.
D'accord. J'avais deux questions à poser à docteur.
Oui.
On était dans une chambre où il y avait trop d'humidité. Parce qu'à l'époque, c'était l'hivernage. Ma sœur a commencé à développer des symptômes comme la toux, les rhumatismes, et moi aussi. On voulait savoir s'il y avait un risque potentiel.
Alors, la liaison téléphonique n'est pas très bonne non plus avec Dakar ce matin. Donc, je vais me faire aussi votre porte-parole. Dado nous appelle pour nous dire que dans sa chambre, il y avait beaucoup d'humidité, qu'elle a développé des symptômes du nez qui coule et une difficulté à respirer, à expirer surtout. Et elle remarque qu'en dehors de sa chambre, de la maison, elle n'a pas ses symptômes. Donc, elle voudrait savoir si l'humidité a un lien sur sa santé respiratoire et si cette sinusite qu'elle a développée peut se transformer en asthme. Professeur Ryerson.
Alors, effectivement, c'est pas tant l'humidité en soi, c'est vrai que l'humidité, on le remarque et on le ressent, mais très souvent, qui dit humidité dit présence de moisissures.
De champignons.
Et de champignons. Et alors, des fois, ils sont visibles, des fois, pas toujours visibles. Et ce sont ces moisissures et ces champignons qui peuvent également provoquer des allergies au niveau du nez et au niveau respiratoire. Et très souvent, y a un lien entre les deux. Donc, si effectivement on reste toujours exposé, les problèmes de nez peuvent ensuite descendre sur les bronches et on peut avoir l'apparition d'un asthme.
Alors, quelle prévention on peut recommander dans ces cas-là ?
Alors, au niveau de la prévention, ce qui va être important quand même, c'est de nettoyer les sources d'humidité, les sources de moisissures. Il faut absolument les nettoyer parce qu'on sait que les moisissures, elles entraînent des allergies. Mais ces moisissures, elles peuvent aussi dégager des composés organiques volatiles avec des irritants et elles peuvent donner des infections. Voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir diminuer l'humidité du logement quand on peut et de nettoyer de façon visible, avec de l'eau de javel pour que ça soit pas visible et moins ressenti.
Assainir
l'environnement.
J'espère que vous avez entendu notre réponse d'ado. Merci pour votre appel. Et tout de suite, une initiative citoyenne. On reste à Dakar et nous sommes en ligne avec Maroyo Gay, co-enquêteur du projet RGO qui mesure la qualité de l'air à Dakar. Bonjour.
Bonjour, Madame Raphaël.
Alors, un premier constat, si votre projet a vu le jour, est-ce que c'est parce que la qualité de l'air n'est pas mesurée dans les villes du Sénégal ?
Je ne peux pas dire que la qualité de l'air n'est pas mesurée au Sénégal, mais au moment où nous déployons ce projet-là, il y avait un déficit dans ce sens-là. Parce que l'ensemble des stations qui mesuraient la qualité de l'air à l'époque étaient HS. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'est né le projet-là.
Mario, je pense que vous êtes dehors, il y a beaucoup de vent. Est-ce que vous pourriez peut-être vous mettre à l'abri le temps que je vous pose quelques questions? Moi, je voudrais comprendre en quoi consiste votre projet. Comment vous mesurez la qualité de l'air ou comment ça fonctionne, en fait? Expliquez-nous.
Alors, je me déplace là au niveau pour essayer de me protéger du vent.
Oh, super.
La question, comment on protège? On a développé des capteurs sous forme d'écorce d'eucalyptus, des capteurs passifs qui servaient de piège à particules. Et ces capteurs-là ont été dispersés dans la commune de Sédicotane qui est concernée par ce projet-là, dans les habitations notamment, pendant 6 mois. Après ces 6 mois-là, ces capteurs, on les a envoyés à Toulouse, en France, pour être analysés.
Et alors, quels résultats vous avez obtenus ?
Les résultats, il y a des résultats partiels pour le moment, mais nous aurons des résultats définitifs à partir du mois de juillet de cette année.
Et est-ce que vous êtes en lien avec des professionnels de santé, justement pour établir les connexions entre pollution de l'air et les pathologies, les maladies associées ?
Ah, parfaitement. Faudrait peut-être que je fasse un peu la genèse de ce projet-là. À la base, il y a mon collègue Yann Philippe Tassouin du CNRS et moi qui partions à Sédicotane. C'était pour suivre les filières sous l'angle économique de récupération de la ferraille. On s'est très tôt rendu compte qu'il y avait beaucoup d'usines qui transformaient cette ferraille-là, notamment des batteries de plomb et autres. Là. Et en ayant des discussions avec les populations locales, il y avait une plainte qui revenait, c'était la pollution, la qualité de l'air. Alors de là est né ce projet-là pour essayer soit de confirmer cette perception, soit de l'infirmer. Et donc nous avons mis en place ce dispositif de capteurs-là. Et après de ce projet, nous nous sommes dit... On ne peut pas mesurer la qualité de l'air, avoir des résultats négatifs ou positifs et laisser les populations comme ça. Il faut apporter des réponses. Et c'est comme ça qu'un autre volet de ce projet est né qui s'appelle Aérosène. Et ce projet Aérosène-là est porté par le professeur Fatou Bintou Sarr de l'Université de Thiès, par le doyen Abdoulaye Sam de l'Université de Dakar, et par des médecins qui se sont associés à nous. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la petite histoire, je suis là en train de me rendre à Diamniadio au poste de santé, parce que nous sommes en train justement de préparer les journées de consultation pour la population locale pour le samedi prochain.
Merci beaucoup, Maroyo Gay, d'avoir été en ligne avec nous. Bravo pour cette initiative. Et n'hésitez pas à nous communiquer les résultats de tout ça quand vous les aurez. Ça nous intéresse. Docteur Souvé, est-ce que c'est important, on l'a entendu au cours de cette émission, d'avoir des indicateurs de pollution? Est-ce que ça, c'est primordial pour donner des réponses adaptées et travailler sur la prévention?
Oui, j'ai déjà sensibilisé les décideurs qui n'ont pas toujours conscience que c'est un enjeu majeur, la pollution de l'air. Leur dire, voyez, vous n'êtes pas du tout dans les clous, votre population souffre. Et ensuite, ça permet aux populations de les sensibiliser, elles aussi, de les éduquer aux gestes qui vont limiter en attendant que les dirigeants investissent. Je vous donne un exemple, évidemment, c'est l'Europe. L'Europe a décidé de s'aligner à peu près, aux nouvelles normes de l'OMS, normes de qualité de l'air, avec des dérogations, eh bien, si on investissait 6 milliards maintenant, donc évidemment chaque pays peut investir à sa hauteur, on gagnerait à la sortie, en termes de bénéfices économiques, sanitaires, etc., 42 milliards. Mmh. Donc un investissement à court terme permet d'avoir des grands bénéfices à long terme.
Une action donc, volontariste sur la réduction des émissions des particules dans l'air est donc possible pour la santé, pour tous. On arrive à la conclusion de notre échange. Professeur Ray Harrison, un dernier petit mot en quelques secondes en termes de sensibilisation.
La sensibilisation, il faut absolument qu'on arrive à convaincre à la fois les décideurs sur le fait qu'il ne faut pas être dans le curatif. Aujourd'hui, on diagnostique tardivement, on dépense quand même beaucoup d'argent pour traiter des maladies quand elles sont déclarées. Certes, la prévention, c'est un investissement énorme au départ, mais qui permettra justement de sauver des vies, de diminuer l'impact de la pollution sur les maladies en général.
Sensibiliser les citoyens aussi à prendre conscience de l'environnement dans lequel ils vivent et des facteurs de risque. Un grand merci à vous deux pour toutes vos explications et d'avoir répondu aux auditeurs de Priorité Santé. Merci aussi aux équipes de France Bleu d'avoir assuré le duplex depuis Aix en Provence. Et avant de se quitter, c'est All Over Daily J sur RFI. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Damien Roucou, Thali Mpouo, Louis Kaledek et Pauline Berthélémy à la réalisation. Vous pouvez écouter, réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application mobile RFI Pure Radio et sur notre site rfi.fr. Demain, nous parlerons des infections urinaires plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. En France, c'est le deuxième, second motif de consultation et les plus jeunes ne sont pas épargnés. Quelles sont les causes et les complications, comment les éviter et les soigner? Rendez-vous à 9h10 demain en temps universel. D'ici là, bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.